Nous avons commencé la table ronde prévue cet après-midi avec un petit peu de retard et nous en excuse, consacrée à la littérature de jeunesse, peut-être un peu plus précisément à la littérature de jeunesse de science-fiction. Nous avons le plaisir d'accueillir, donc à ma gauche, Alain Rousset, auteur, essentiellement également directeur de collection, qui écrit depuis un certain nombre d'années.
Beaucoup,
ouais. Qui a publié des titres qui ont beaucoup marché, comme Christian Grenier à côté. Donc, Alain Rousset, vous pouvez citer peut-être La Citadelle du Vertige, un roman qui a quelques années et qui a un grand succès scolaire, entre autres, mais également pour le plaisir. Et le dernier titre.
Écrit à deux avec Daniel Martin.
Voilà, le dernier titre par un écrit à deux avec Daniel Martin de Sans Interdit. Vous trouverez bien sûr tout ce dont nous allons vous parler à la librairie qui se trouve là-bas au fond. Et ensuite, nous avons également Christian Grenier, qui a les mêmes particularités, auteur, lui aussi directeur de collection pour la jeunesse, dont vous avez peut-être lu Virus et Livre 3, le virus des livres, ou bien quelques-uns des tomes des enquêtes de logiciels, dont L'Ordinateur ou encore Assassin.net, ou encore Saint de Vélodio, qui est le titre le plus récent publié par Christian. Donc la question d'introduction de cette table, c'était: existe-t-il une écriture pour la jeunesse? Donc ce que je vous propose, c'est peut-être d'abord de partir de ça et de voir ensuite l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire ce que vous, en tant que directeur de collection, vous avez pu envisager de la question. Donc on va commencer par ce qui est l'écriture. Donc alors, commencez-vous.
Oui, il y a forcément une écriture jeunesse. L'écriture jeunesse, il y en a forcément une. Pourquoi? Parce qu'il y a... tous les thèmes sont abordables comme les littératures adultes. C'est le traitement qui diffère. Bien entendu, on ne va pas mettre des scènes d'amour torride dans des livres pour jeunesse. On peut suggérer, il peut se passer des choses entre deux chapitres. On sait que ça va commencer à la fin du premier chapitre et puis au suivant, ça s'est passé. Mais sinon, donc, il n'y a pas d'interdit en littérature jeunesse et principalement en science-fiction. Après, il y a une manière d'écriture qui va peut-être être plus simple, avec peut-être un peu moins de profondeur des personnages. Pourquoi? Parce que souvent les textes sont plus petits, hein. Donc l'auteur n'a pas le temps forcément de trop rentrer dans le détail. Il faut effectivement privilégier le plaisir de lire, le plaisir de l'aventure. Alors tout ça peut-être modèle un petit peu, plus ou moins inconsciemment, l'auteur. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, toi, si tu es d'accord ou pas.
Je ne suis pas d'accord du tout.
Voilà, donc ça commence.
Mais c'est vrai.
C'est vrai.
Oui, ben.
J'ai un micro pour moi tout
oui,
seul.
Oui, non, on partagera tous les deux.
Donc pourquoi n'es-tu pas d'accord du tout?
La question m'intéresse beaucoup. Parce que d'ordinaire, la grande question est: existe-t-il une littérature pour la jeunesse? Et dans ce cas-là, on a le point de vue du lecteur. Et il existe une littérature pour la jeunesse, ne serait-ce que parce qu'il y a des collections jeunesse, un marché de la littérature jeunesse, des textes qui sont étudiés, lus en classe, prescrits. Il existe donc, de gré ou de force, par les faits, une littérature pour la jeunesse. Mais la question me paraît intéressante parce qu'elle est très différente. Ce n'est pas « y a-t-il une littérature pour la jeunesse ?» mais « y a-t-il une écriture jeunesse ?» Et il se trouve que je réponds non. Il n'y a pas d'écriture jeunesse. Ou alors, il y a 15, 20, 100 écritures différentes. Il y a des modèles d'écriture, il y a des niveaux d'écriture, sans doute. Mais à mon avis, il y a des textes pour la jeunesse publiés dans des collections pour la jeunesse qui sont extrêmement ambitieux, avec des psychologies de personnages, excuse-moi, très fouillées, beaucoup plus que dans certains textes dits pour adultes, dans certaines collections, je pense pas forcément à Barbara Cartland ou à Gérard de Villiers, mais on nous dit toujours, il y a la littérature pour adultes, ou la littérature générale, et puis la littérature jeunesse. comme si la littérature générale était la grande littérature avec des majuscules et la littérature jeunesse une sorte de sous-littérature permettant d'accéder à la grande littérature. Et l'expérience prouve néanmoins qu'il y a au sein de la grande littérature des textes d'une pauvreté navrante sur tous les plans, et qu'il y a dans la littérature jeunesse, je caricature mais à peine, des textes qui ont traversé les siècles et qui sont de grands modèles et qui vont rester et qui restent d'ailleurs. Jules Verne est toujours là. Jules Verne, et Jules Verne n'a jamais écrit que pour les jeunes, contrairement à ce qu'on voit, à ce qu'on prétend dans certains manuels de littérature. Donc il y a plusieurs niveaux de littérature, c'est vrai, tout le monde le sait, mais il y a sans doute des écritures qui vont toucher des publics différents. Hier, on nous demandait à FR3, la journaliste connaissait mal la littérature de science-fiction, et nous disait « Donnez-moi le titre d'un bon roman de science-fiction ». Et ça me faisait sourire. Et je lui ai dit « Non, je ne peux pas. Que lisez-vous ? Est-ce que vous lisez précisément Marc Lévy, Guillaume Musso, ou bien Louis-René Desforêts, Julien Gracq ?» Et ce ne sont pas les mêmes lectures, ce ne sont pas les mêmes niveaux littéraires. Et il y a des écritures qui peuvent s'adresser à tous les publics. Alors bon, pendant 5 minutes essayer. Bon, il y aurait une quarantaine de points à développer, je vais vous en citer 4. Au niveau de l'écriture, je me situe au niveau de l'écriture. Et vous allez voir que on n'est pas forcément dans la jeunesse, mais ça concerne toute la littérature. Déjà, il y a un problème de vocabulaire. Et le vocabulaire, parce qu'il est vrai qu'on pourrait croire que les jeunes, il leur faut moins de vocabulaire, ou que les enfants, il leur faut un tout petit peu de vocabulaire. Alors c'est vrai que quand on est au CP, c'est certain, au cours moyen, ça devient plus... On peut accéder déjà à un niveau de littérature de 800, 1000, 2000 mots de vocabulaire, mais il n'y a pas seulement la richesse du vocabulaire, mais aussi l'actualité du vocabulaire. Quand on prend Racine, vous le savez tous, Racine, c'est 800 mots de vocabulaire. Donc apparemment, des enfants très jeunes peuvent avoir accès à Racine. Or, le théâtre du XVIIe siècle, vous le savez, je vais vous citer quelques vers avec des mots de vocabulaire très simples, que tout le monde peut comprendre, et ça va me permettre de passer au second plan. Percé jusque au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une injuste querelle et misérable objet d'une juste rigueur, je demeure immobile. Et mon âme battu, c'est au cou qui me tue. Il n'y a pas un mot. Voilà. Tout ça, c'est dans le dictionnaire. Les enfants, les jeunes de 12, 13 ans comprennent très bien ça. Mais pourtant, ils ne comprennent pas. Et enfin, ils comprennent de moins en moins. Parce qu'il y a aussi ce que j'appelle la complexité narrative. C'est-à-dire le contexte. Et quelquefois, avec des mots très simples, on a des choses très compliquées. C'est d'ailleurs l'une de mes définitions de la littérature jeunesse et de la littérature vieillesse. Elle est très provocatrice. Mais Lauriane, c'est le moment de la citer. Je pense que je défends la littérature dite jeunesse, mais je me place sur le plan de l'écriture. Je pense que la littérature vieillesse, excusez-moi, mais il y a une littérature jeunesse que l'on croit qu'il y a une littérature vieillesse, hein. Je pense que la littérature vieillesse, souvent, je ne citerai pas d'auteur, c'est dire des choses simples avec des mots compliqués, et la littérature jeunesse, c'est l'inverse. C'est dire des choses compliquées avec des mots simples. Donc, mais c'est aussi une ambition, et c'est l'ambition, je pense, de tout grand auteur, que de dire, que d'aller au cœur du problème, que de dire le minimum, de dire le maximum de choses avec le minimum de mots. Voilà. C'est l'ambition, je pense, de tout auteur. Flaubert pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi. On ne l'a pas invité, et il a écrit peu de science-fiction, c'est vrai. Ensuite, on pourrait aussi parler de la thématique et de l'univers. Parce qu'il est vrai qu'il y a des thématiques et des univers qui touchent les jeunes davantage que les adultes. Le voyage, l'inconnu, l'océan, la grotte, l'aventure, l'expérience, c'est-à-dire tout ce que les Allemands appelaient le Bildungsroman, c'est-à-dire le roman d'apprentissage, avec le capitaine Fracasse, Wilhelm Meister, etc. Donc, et ces romans d'apprentissage sont de toute façon des romans qui ont l'ambition, je dirais, d'être lus par des adolescents pour leur montrer comment on devient un homme. Et cette littérature d'apprentissage, est-ce qu'il y a des auteurs jeunesse qui s'y prennent mieux que d'autres? Je dirais que non, non. Ça fait partie de la littérature. Et il y a des textes, en revanche, qui vont permettre aux jeunes de mieux appréhender l'univers, et je ne parle pas de la science-fiction, parce que là, c'est en général, mais je dirais même au sein même de toutes ces littératures, la littérature de science-fiction, moi, je la privilégie pour ça, parce qu'elles sont en décalage avec le réel, le jeu avec l'hypothèse, il y a un jeu narratif qui est typique de ce qu'aiment faire les enfants quand ils lisent. Et enfin, quatrième, mais encore, je vous le dis, il y en a 40, hein. Le quatrième point que j'aimerais aborder, c'est aussi, et Alain en parlait, la dynamique. C'est-à-dire l'art qu'a l'écrivain de rendre le texte attrayant, qu'il y ait des péripéties, des événements. Et là, c'est comme si j'essayais de dissocier le fond et la forme, et vous le savez bien, on ne dissocie jamais le fond et la forme. Donc il y a là quelque chose de très mystérieux qui est l'art de l'auteur. Et la question, c'est bien, y a-t-il une écriture pour la jeunesse ? Eh bien, il y a, faut-il le croire, et je conclue là-dessus ma petite partie, hein, il y a sans doute des auteurs. La façon d'écrire de ces auteurs va toucher davantage le jeune public. Pas seulement par leur thématique, mais aussi par la dynamique de leur écriture, aussi parce que leur univers va toucher les jeunes davantage que d'autres univers. Autrement dit, il y a une complexité narrative qui est à leur niveau. Et croyez-moi, cette complexité narrative peut toucher davantage les jeunes que les adultes. Moi, j'ai écrit L'Ordinateur. Ma voisine, qui a 60 ans, Madame Lanterne, que tu connais, Alain, Madame Lanterne, elle lit le Sud-Ouest, elle lit les romans de terroir, parce qu'elle adore ça. Et elle sait que je suis écrivain, bien entendu. Et L'Ordinateur, elle n'a jamais pu le lire. Il y a une complexité narrative, il y a un univers, avec des ordinateurs à réseau de neurones. Elle est complètement perdue. Ça ne la touche pas. Elle n'y comprend rien. Et nous sommes pourtant dans la littérature de jeunesse. Donc elle n'est pas forcément plus simple, la littérature de jeunesse. Voilà, bon, enfin, ça c'est ce que je tenais à dire, parce qu'il n'y a pas d'écriture pour la jeunesse. Il y a des auteurs dont l'écriture spontanément semble toucher davantage, à cause des quatre points que j'ai nommés, les jeunes que les adultes. Et la qualité de l'histoire ou de la qualité littéraire n'a rien à voir. Encore une fois, on a le pire et le meilleur dans tous les domaines, et je le dis souvent comme pour provoquer mon public, je dis la science-fiction, on n'aime pas, non pas ici évidemment, mais la science-fiction, on la rejette, c'est d'ailleurs de bon ton de dire non, la science-fiction, moi je m'intéresse, voilà, je lis les grands auteurs, donc. Et par contre, vous pouvez leur dire, et la poésie, ah la poésie, oh la poésie, et je leur dis, désolé, la poésie est un genre littéraire, mais ce n'est pas parce que c'est de la poésie que c'est de bonne qualité. Il y a des mauvais poèmes, il y a de mauvais poètes. Ne dites pas ça, jamais. Pareil pour le roman historique, pareil pour... il y a des gens qui portent en... Le conte, c'est génial. Ben non. Il y a des grands classiques dans le conte, mais ce n'est pas parce qu'on écrit un conte que c'est génial. Aucun genre littéraire ne porte en soi une qualité intrinsèque, c'est faux. Il y a le pire et le meilleur dans tous les genres littéraires. Et il y a le pire et le meilleur dans la littérature et dans l'écriture, qu'elle s'adresse à des jeunes ou à des adultes. Je dirais même que, puis je m'arrête là parce que je ne vais pas monopoliser la parole, que les grands textes qui traversent les siècles sont souvent des textes qui n'ont pas toujours été des textes pour la jeunesse, mais qui sont devenus si universels qu'ils sont obligatoirement proposés dans les écoles, dans les classes, qu'ils sont au programme. Molière serait très étonné de savoir que sa pièce la plus lue sans doute et la plus populaire aujourd'hui, c'est sans doute Le médecin malgré lui. C'est de la littérature jeunesse, ça va de soi. Dites ça à Molière. Mais aujourd'hui, en sixième, on n'y échappe pas. Autrement dit, je m'arrête là parce que j'aurais trop de choses à dire, mais les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et sur le plan de l'écriture, il y a d'ailleurs de grands auteurs qui aimeraient écrire pour la jeunesse et qui se révèlent incapables de s'adresser à des jeunes. Les exemples sont nombreux, je ne vais pas les citer parce que ce sont souvent des académiciens.
Non, mais je crois qu'on est tout à fait d'accord.
Oui. C'est bien qu'on est d'accord.
Tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette exigence d'écriture. Quand j'ai dit toute la démonstration que tu viens de faire, pour moi, ça montre bien qu'il y a une écriture jeunesse qui est un peu différente de l'adulte. On peut discuter de ça. Ce qui serait très intéressant ici, à la table, c'est d'avoir un autre auteur, qui, comme Fabrice Colin, par exemple, comme Joan Eliot, comme Christophe Lambert, qui ont les deux casquettes. C'est-à-dire qui écrit pour des adultes, hein, Jeanne, venir, si tu veux. Et parce que là, est-ce qu'eux, au moment de l'écriture, est-ce qu'ils font une différence ? Parce que là, les exemples que vous avez là, nous sommes exclusivement jeunesse.
Donc, tout à fait,
bon, tout à fait, mais avec quelques rares exceptions, mais vraiment rares exceptions, on est revenu quand même.
On peut quand même citer la parole de Robert Heinlein pour le sujet. Si je veux écrire un roman juvénile, c'est-à-dire pour les
jeunes adultes,
15-20 ans, je prends un héros juvénile, je me mets dans sa tête et j'écris exactement de la même manière tout le reste.
Bien sûr. Parce que peut-être
il faut quand même la citer, c'était le moment ou jamais.
Bon, alors moi j'écris des romans de jeunesse pour les tout petits en fait. J'ai commencé avec Denis Guillaume, une collection qui s'appelle Les Munitions, qui est destinée à apporter des grands thèmes de science-fiction dans les écoles primaires. Ça a été à la fois un très grand plaisir et un très grand défi. J'ai adoré en faire, j'ai même supposé Denis de me faire faire le troisième alors qu'on en avait prévu deux. Parce que vraiment, c'était très très intéressant comme style d'écriture. Tu disais tout à l'heure, Christian, que c'était dire des choses compliquées, mais de façon simple. Mais les trois mini-sous que j'ai écrits, c'était vraiment extrêmement complexe. Et on les a fait étudier en CM2. J'étais absolument sidérée du passage de la réception qu'avaient les gamins de ce thème si complexe. L'un d'entre eux, c'est l'envoi du dragon, ça raconte la mort d'un gamin de 9 ans. C'est une chose qu'on fait très très peu en fait, de raconter la mort des enfants dans la littérature. Et ça avait extrêmement bien passé. Pour moi, c'est une partie. J'étais pas partie pour être un écrivain pour la jeunesse du tout, à la base. Hein, j'écrivais. Mais c'est une partie maintenant de mon écriture que je n'abandonnerai jamais. Parce que. En tant qu'écrivain et en tant que professeur, j'ai trouvé une façon d'exprimer que je ne trouve pas en littérature vieillesse.
Puis il y a une spécificité moi, que j'aime bien, c'est écrire pour la jeunesse, c'est que devant moi, tout le champ des possibles est là. C'est-à-dire si j'ai envie d'écrire une histoire qui se passe sur une planète remplie de sable, où il y a des grands vers qui font de l'épice, je vais pouvoir le faire si je veux. Lorsque ces jeunes vont vieillir et vont lire Dune, ils vont dire ça me rappelle un livre de Brousset. Nous avons l'antériorité sur n'importe quel auteur adulte. On peut faire ce qu'on veut, on sera avant vous.
Je ne suis pas d'accord. Mais je ne plaisante pas, parce que je pense qu'on peut aussi avoir l'ambition, j'essaie de l'avoir, d'être original, d'être fort, d'avoir une hypothèse qui n'a jamais été proposée, y compris pour les jeunes. Donc ce n'est pas parce qu'on s'adresse aux jeunes qu'il faut faire ce qui a déjà été fait pour les adultes ou d'une autre manière pour les amener, être un tremplin en quelque sorte. Certes, nous sommes un tremplin, mais on doit, et c'est ce que tu disais d'ailleurs, livrer aux jeunes le meilleur et avoir l'ambition. Et voilà, leur faire confiance, les enfants, on ne fait jamais assez confiance à leur capacité d'adaptation, à leur capacité de compréhension. Il faut être ambitieux, il faut viser toujours très haut. Et je pense que le gros défaut qu'on pourrait avoir, surtout quand on veut écrire pour les jeunes, c'est je vais tenter de me mettre à leur niveau, comme la comtesse de Ségur qui disait « Mes chers petits-enfants, je veux raconter une belle histoire. » Ben non, on n'en est plus là du tout aujourd'hui, bien sûr. Je pense qu'on doit avoir l'ambition de livrer le jeune aux enfants. Et quand les directeurs littéraires me disent « Non, non, mais attends, on ne peut pas, là, ils ne comprendront pas », et d'ailleurs, moi-même, je ne comprends pas, et combien de fois on me le dit, je vais citer des prénoms, « Écoute, Babette, tu ne comprends pas, toi, mais t'inquiète pas, un gosse de 12 ans, lui, il va comprendre. » Et puis, s'il ne comprend pas du premier coup, ce n'est pas grave, parce que moi, je sais ce que j'ai écrit, il y a des choses entre les lignes, il y a ce qu'on appelle de l'implicite, et les directeurs littéraires, souvent, me disent « Bah oui, mais non, ça, c'est des jeunes, ne peuvent pas comprendre. » Je suis désolé, les mots existent. Ils ont une certaine expérience, des jeunes, et quand ils lisent ou relisent un texte, ils s'aperçoivent peu à peu que le texte s'enrichit au fil de leur histoire et de leur vécu. Et c'est ce qui nous rend la nécessité d'être aussi ambitieux, au moins autant, pour quand on écrit pour les jeunes que quand on écrit pour les adultes.
Pour rebondir sur la réception du texte de science-fiction par les jeunes, c'est évident que ceux qui ont réellement des barrières de compréhension, ce sont les adultes. Je passe plus de temps à expliquer à une institutrice ce qui se passe dans l'enfance satellite qu'aux gamins qui l'ont lu, qui eux ont une réception immédiate, sans préjugés, qui leur permet de rentrer dans le texte sans qu'on ait besoin de leur faire 350 000 explications sur les cyborgs. Les gamins n'ont pas besoin de savoir qu'il y a des cyborgs, qu'on a eu une histoire là-dessus.
Oui, parce qu'ils sortent du conte et le conte.
Ils sont dans quelque chose qui leur permet de rentrer dans le récit sans les préjugés. En fait. Et c'est ça qui permet à la littérature de jeunesse d'avancer, d'être originale et de porter des grands thèmes de science-fiction qui apparaîtraient au départ comme totalement complexes. Je pense qu'on pourrait très très bien faire la science avec la littérature de jeunesse sans aucun problème.
Non, c'est vrai qu'on cumule un peu deux handicaps, c'est-à-dire qu'effectivement, la littérature jeunesse, on la met un peu en dessous de la littérature vieillesse, et en plus de la science-fiction. Donc nous, on cumule, on a vraiment envie de se faire taper la tête. Et combien de fois, je vois pour la Cité des Vertiges, qui est de la science-fiction, il faut, je passe comme tu dis, beaucoup de temps à convaincre le prof en disant oui, c'est de la science-fiction, alors que les gamins ont bien compris que c'était de la science-fiction, et ça n'a posé aucun problème. Ah non, c'est du fantastique. Pourquoi ? Parce que le fantastique a un côté plus
noble.
Noble,
voilà. Voilà.
Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, à plusieurs reprises, vous avez parlé de défis, de plaisir dans l'écriture, de liberté aussi avec les allusions faites à Dune. Est-ce qu'il y a en regard de ça des contraintes, des interdits ou des limites que vous fixez au moment de l'écriture, en pensant au lectorat jeune qui, par la suite, sera confronté à vos textes? Est-ce qu'il y a des contraintes, est-ce qu'il y a des choses qui viennent contrebalancer ou qui viennent compléter peut-être le plaisir et la liberté qu'on trouve en écrivant pour la jeunesse?
Je crois que les contraintes que l'on se pose, c'est les contraintes de notre propre personnalité. Enfin, moi, tout naturellement, je fais des textes avec des fins optimistes, très rarement, vraiment, à quelques exceptions près. La fin, c'est un minimum, parce que j'ai une nature du pessimiste optimiste, donc je pose des problèmes pessimistes, mais il y a une lueur, la porte est entrouverte à la fin. Donc ça fait partie de ma personnalité, donc je me mets ces barrières-là, mais elles sont très naturelles. Et peut-être qu'un autre auteur va avoir d'autres sensibilités, peut-être plus pessimiste ou plus pointu dans un autre domaine, et c'est ça, c'est contraint ça, mais pas plus, sinon.
Bon, moi je n'ai pas de scène de cul dans mes romans de jeunesse. Mais j'en ai pas non plus dans des romans adultes, donc c'est pas un signe. À l'inverse, mes romans ont plutôt tendance à finir mal. Hein. Ça m'a même été reproché par des idiots qui m'ont dit « Bon, là, je vais faire un truc un tout petit peu plus optimiste, s'il te plaît. »
Les enfants pleurent.
Mais j'ai pas remarqué que ça coinçait les gamins. Pour l'instant, dans les retours que j'ai, celui qu'ils préfèrent, c'est la balade de trash, je les tue presque tous, dans l'ensemble, et je les abandonne dans un monde, dans des élections qui ne va certainement pas s'améliorer. Non, ils n'ont pas envie d'être pris pour des cons. J'ai entendu beaucoup de théorisations sur la littérature de jeunesse, où ne pas avoir un vocabulaire très étendu, ne pas utiliser des trucs trop trash, etc. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de barrière, il y a juste la manière d'amener le truc qui est peut-être un peu plus soft éventuellement.
Oui, mais enfin, je te rappelle de la grande polémique du livre de Nathalie Legendre concernant les prêtres et tout.
Oui, mais ça, c'était des conneries sans nom.
Conneries sans nom, mais qui ont bien occupé le milieu pendant un moment.
Ah ben oui, mais ça m'a empêché de leur faire sortir. Voilà, ils ont perdu quand même. Cela dit, la balade de trash a été retirée de la sélection des mêmes par les mêmes, parce que je parlais d'inceste dedans.
Je pense que c'est plus compliqué que ça en ce qui me concerne. Je dis, je pense que c'est, en ce qui me concerne, pour moi, ça s'est passé d'une façon plus complexe, et j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus naïf. Et c'est un gros handicap quand on écrit et qu'on est publié pour les jeunes de ne plus être naïf. Parce que j'aimerais avoir la liberté la plus totale quand j'écris, et de toute façon, quand on sait qu'on va être publié, et que c'est très probablement une collection jeunesse qui va accueillir le texte, et qu'on connaît le directeur ou la directrice de collection, on n'écrit plus du tout avec la même liberté. Et moi j'essaie de dépasser ces contraintes qui sont inconscientes, ou plutôt relativement conscientes, mais c'est de plus en plus difficile. Quand j'ai débuté, il n'y avait aucun problème. Le premier roman que j'ai proposé à un éditeur s'appelait Aïe au terrain visible, il faisait 700 pages, c'était un roman d'aventure, et il a été refusé pour adultes, parce qu'on m'a dit non, c'est de la jeunesse. Et effectivement, chez Rajot, Tatiana Rajot, en 69, m'a dit c'est un roman pour les jeunes, en effet, mais il a deux gros défauts. Premièrement, il a 700 pages, et les jeunes aujourd'hui sont incapables de lire un roman de 700 pages. C'était avant Harry Potter, hein, mais c'était une évidence. 700 pages, c'est pas possible. Donc il a fallu que je le réduise. Et puis, vos personnages, c'est des adultes. Et ça, c'est pas de la littérature jeunesse. Mais c'est bizarre parce qu'en même temps, il a toutes les autres caractéristiques. Donc j'avais écrit de la littérature jeunesse sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas écrit pour les jeunes. Il a été publié dans une collection pour la jeunesse avec cette anomalie. Alors, il a été raccourci, mais mes personnages avaient 25 ans. Et c'était une nouveauté. Parce que je comprends, je connaissais le point de vue de Robert Heinlein, mais en France, pendant très longtemps, on a cru que le héros d'un livre jeunesse devait être ou un animal ou un enfant qui, si possible, avait 12 ou 3 ans de plus que le lecteur. Et là, on allait à l'encontre. Et ça, c'était dans les années 70, où la littérature jeunesse a eu une sorte de virage, avec Pierre Pelot, Michel Grimaud, auteur Christian Léourier et plein d'autres auteurs, dont les héros, tout à coup, pouvaient être des adultes. Et croyez-moi, c'était tout à fait nouveau en littérature jeunesse. Alors aujourd'hui, j'ai des problèmes parce que je sais que je vais publier en jeunesse et que quand c'est Elisabeth Sebaoun, quand c'est Caroline Vesbert, quand c'est Cécile Terouane, je cite le nom des gens qui vont nous lire en premier, je me dis non, c'est pour Caroline, là je ne peux pas. Je sais que je ne peux pas avoir une petite fille de 12 ans qui est méchante dans la classe parce que Caroline va me dire ça, on ne peut pas. Un petit garçon qui est impossible, ça va, mais là c'est sexiste. Si on a c'est vrai. Je ne peux pas mettre un personnage en fauteuil roulant non plus parce que son père est mort. Son père était tétraplégique et il est mort. Bon. Donc elle ne supporte pas les personnages en fauteuil roulant. Enfin, ça c'est personnel, mais il faut savoir tout ça. Et de toute façon, quand j'écris, je me dis là il y a un truc, je ne peux pas. Alors je fais des efforts. Récemment, là, pour la réécriture, j'en parlais hier à Lauriane de La guerre des poireaux, qui est ressorti sous le titre de La grande guerre des poireaux. C'est un texte qui datait de 76 et qui vient de ressortir. Le papa, à un moment donné, a une réaction par rapport à la tradition. Et le père qui n'aime pas les traditions, dit à son fils, de toute façon, les traditions, elles sont bonnes. Moi, j'adore les traditions, dit-il. La guerre, la corrida, l'excision. C'est un roman pour les 8-10 ans. Hein, bon. Et j'ai gardé tout ça. Et Caroline m'a dit, attends Christian, j'ai beaucoup aimé ton humour, mais on ne peut pas, là, on ne peut pas. Je dis, toi, qu'est-ce qui te gêne, l'excision, mais une note de battage? Non, on ne peut pas. Et je l'ai enlevé. Mais au départ, je ne veux rien enlever, je ne veux rien interdire. Et il n'empêche que, j'ai de plus en plus de choses à corriger, à modifier, il faut que je fasse plus court. Et les remarques que j'ai de plus en plus, quand je ne me censure pas, c'est trop long, c'est trop compliqué, il y a trop de personnages et c'est trop littéraire.
Oui, mais attends, est-ce que tu ne crois pas qu'en fait, même c'est pareil en littérature adulte, donc en fait, on écrit, quand j'écris pour la Talente, c'est des romans dont je sais qu'ils vont passer à la Talente. Et pourtant, c'est des romans adultes. Enfin, il n'y a guère aucune griffe qui m'a jamais posé le moindre projet sur le journal, et on n'a jamais dit ça, ça ne passera pas. Mais je crois que c'est une forme de fraîcheur de la part de Magali Duez qui a laissé passer des choses qu'à l'époque, au début de la maison d'édition, que maintenant, éventuellement, elle laisse passer. Elle était plus dans la création de sa maison, la création de grands romans, que dans une ligne éditoriale réelle. Mireille Rivalant, elle publie des livres qui lui ressemblent comme des directeurs de collection publie des livres qui leur ressemblent. Je pense pas que ça soit tellement un truc de jeunesse ou de littérature adulte, là, pour le coup. J'ai une autre casquette, je suis anthologiste. Donc parfois, je récolte des nouvelles de collègues dans des thèmes précis, et je me fais toujours. Je ne dirige jamais une anthologie seule, ça c'est. Parce que j'ai toujours peur de ne prendre que des choses qui me plaisent à moi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, ce que j'aimerais, ce que je voulais le lièvre que je voulais soulever, si j'ose dire, c'est qu'au départ, nous essayons de répondre à la question « Y a-t-il une écriture pour la jeunesse ?» Et qu'à l'arrivée, j'aimerais qu'on prenne conscience que le problème de l'écriture va poser deux autres problèmes qui, à mon avis, sont liés, même si ça ne semble pas être lié, qui sont ceux de l'autocensure et ceux de l'économie de marché. Parce qu'il y a un marché, et parce que nos directeurs littéraires veulent que les livres soient lus, qu'ils soient lus par le maximum de lecteurs, donc que ça corresponde au cœur de cible et à la collection. Et c'est, voilà, donc, il faut que le livre soit lu, qu'il touche le public le plus large. Donc, on rabote, on réduit, on essaie de coller le plus possible à une sorte de consensus mou qui, il y a 20 ou 30 ans, n'existait pas. Où la liberté était beaucoup plus grande, et aujourd'hui, avec la crise et avec les chiffres, il faut qu'il y ait une croissance à deux chiffres hein, chez les éditeurs. Hein. Attention, c'est très méchant. Hein.
Et donc, vous faites du vampire,
pourriez-vous nous faire du vampire? Non, je passe la parole à Alain, mais je voulais finalement glisser vers ces problèmes qui sont des problèmes de société. Le livre n'est plus. C'est une marchandise, c'est un produit comme les autres. C'est devenu un produit de consommation, il faut qu'il réponde à des règles qui sont celles de l'économie de marché. Et évidemment, quand on est créateur, ça grince beaucoup.
Oui, l'économie de marché, elle fonctionne à Bologne, pour la jeunesse, où le plus grand marché mondial est là. Et donc tous les éditeurs du monde entier sont là, et chacun regarde la production, et on achète, on dit, cette année, c'est quoi la tendance? C'est des anges, c'est des vampires, c'est des dragons, et à ce moment-là, ils en achètent des tonnes. Et après, ils demandent aux auteurs français, mais vous pourriez nous en faire? Donc, comme il y a un décalage de 2 ans avant d'être la publication, quand même, les Français, vous commencez à faire des dragons, mais nous, la mode est passée, on est aux anges. Voilà, il y a une histoire. Ce qui est assez rigolo, là, je peux vous raconter une anecdote aussi pendant cette collection de chroniques. Je demande à Pierre Bordage une idée pour démarrer un roman. Donc, c'était une collection de chroniques. Et il me répond, il m'envoie en disant voilà, j'ai envie de faire une histoire où les Arabes ont perdu à Poitiers et. Ont gagné, je veux dire, pardon, ont perdu, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et tout. Et je soumets ça, j'en parle à la grande prêtresse de chez Flammarion, Hélène Badowski, qui me dit ça va pas le faire. Ça va pas le faire, pourquoi? Parce qu'elle, elle a vécu 2 ans avant, elle avait publié un livre qui se passait dans un camp palestinien où deux jeunes palestiniens, à un moment, un des jeunes dit ah oui, c'est salaud d'Israël. Qui paraît logique dans le contexte de ses enfants. Et là, tout s'est mis en route. Plein d'organisations juives lui sont tombées dessus, menaces de mort, et 6 mois avec les RG en garde du corps chez elle, dans ses déplacements partout, à cause des menaces de mort et des manifestations qui avaient au clé de Flammarion tous les jours. Donc elle a dit, bon, ce que j'ai vécu d'un côté, je parle vite de l'autre, donc c'est non. Voilà un système de censure aussi, puisque ce livre n'est jamais sorti à cause de ça.
On a évoqué à plusieurs reprises votre travail avec les directeurs de collection. J'aimerais maintenant qu'on prenne quelques minutes peut-être pour vous écouter au sujet du travail que vous avez eu, vous, en tant que directeur de collection, dans l'accompagnement, la collaboration avec les auteurs qui ont travaillé avec vous. De quelle façon est-ce que ça se passe? Quelle consigne?
On a un jour de gloire, c'est le jour où la maison d'édition dit on vous confie une collection, c'est parfait. Donc là, le jour de gloire, c'est comme le jour d'être président de la République, c'est le jour où on est élu, tout va bien. Le lendemain, les emmerdes commencent. Les emmerdes commencent parce que on est aussi auteur, on va faire appel à des gens qu'on connaît, et d'un seul coup, certains auteurs se révèlent différemment de la manière dont on les connaît entre collègues. Et là, d'un seul coup, ce rapport, j'allais dire de hiérarchie bête, mais enfin, forcément, puisque c'est le directeur de la collection qui choisit, ça coince un peu. On s'aperçoit qu'il y en a certains qui ont une mal à distance, qui ne vont pas envoyer le manuscrit en temps et en heure, ça va tout bouleverser la chronologie de la collection, ou qui vont absolument refuser de changer une virgule. C'est moi l'auteur, vous ne changez rien. Oui, mais attends, il y a un petit problème à tel endroit et tout. Je veux rien savoir, tu prends ou tu prends pas. Mais bon, ben, prends pas. Donc, déjà, on découvre ça de ce côté-là. De l'autre côté, on découvre d'autres contraintes, effectivement. Les contraintes des représentants. Les représentants veulent 6 mois à l'avance, déjà un résumé du livre, avec le titre, parce que c'est eux qui commandent, où ils vont dire oh oui, mais ça, on en a déjà eu un il y a 2 ans, ça n'a pas trop bien marché. Enfin, voilà, il y a plein de contraintes. Alors, au milieu de tout ça, on essaye d'être le plus zen possible et de prendre le plus de stress possible pour en redonner le moins possible aux auteurs. Moi, c'était mon motif. Donc, de toujours dire tout va bien, sachant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Et puis, de les laisser le plus possible tranquilles et d'avoir une lecture à la fin la plus soft possible, c'est-à-dire de ne pas. Ce qui n'est pas le cas de certains directeurs de collection qui ont plus de rouge, après corrigent plus que ce qui a été écrit. Moi, c'est surtout des points de vue d'incohérence, des choses comme ça qui m'intéressent. Après, je pense que l'auteur doit assumer jusqu'au bout son texte. Mais c'est pas simple. On est très content de faire le boulot, mais c'est très dur. On est vraiment pris entre le portefeuille, entre les auteurs et les grands éditeurs. C'est triste, hein, ce que je raconte. Mais tu l'as vu aussi?
Oui, à 30 ans. En 1980 à 85, chez Gallimard. Et je pense que d'ailleurs, la collection m'a été confiée. On m'a dit, voilà, il existe Folio Junior policier, qui était dirigé par Francis Lacassin, Folio Junior en poésie, Folio Junior bilingue, et on va créer Folio Junior science-fiction, tu t'en occupes. J'ai d'ailleurs eu, moi qui étais novice à l'époque, j'avais 35 ans, j'ai demandé à Pierre Marchand quel sera mon comité de lecture. Il m'a dit, tu rigoles, c'est toi ton comité de lecture, tu choisis. Il dit, si je me trompe, tu n'as pas le droit de te tromper, tu es tout seul, si tu fais une connerie, tu es viré. D'accord ? Non ? Et c'était comme ça. C'était comme ça. En revanche, il me faisait une totale confiance qui n'existe plus aujourd'hui. Je faisais ce que je voulais. Je me souviens d'avoir commandé un roman, je commandais, à Michel Grimaud, un auteur double, Jean-Louis Fraisse et Sarah Perriot, qui sont morts récemment. Et auquel d'ailleurs j'ai été l'un des seuls à rendre hommage parce que ce sont nos auteurs très oubliés. Ils ont écrit Le Tyran d'Axilan. C'est d'ailleurs un grand souvenir pour eux parce qu'ils nous l'ont donné le matin et le soir ils avaient le contrat. Et ils ne savaient pas comment j'avais fait. J'avais lu dans la journée, j'avais été voir Pierre, je lui avais dit tu sais, c'est bien, il faudrait le publier. Il était sûr, oui, je suis sûr, tiens, voilà le contrat, tu l'as fait signer. Et ça s'est fait dans la journée. Et ils en ont parlé toute leur vie parce que. Vous savez, donner un manuscrit à un éditeur et avoir le contrat signé avec le chèque le soir même, c'est quand même assez rare. Alors mon travail consistait à publier des nouvelles et des romans, inédits ou à rééditer. Et d'ailleurs, Pierre Marchand m'a dit, nous on est aussi de Noël, on est Gallimard, on a un fonds, on a énormément de choses. On peut acheter des choses, hein, mais tu te sers déjà du fonds, tu relis tout ça. Et on va republier des choses que tu juges accessible aux jeunes, même si ça ne fait pas partie de la littérature jeunesse. Alors j'ai commandé des choses, et il a fallu adapter. Parce que quand j'ai commandé des textes, par exemple à Jean-Pierre Andrevon, que je connaissais déjà bien, il m'a dit, écoute, arrête, j'ai rien dans mes tiroirs, j'ai pas le temps, tu me casses les pieds. Et je lui ai dit, mais alors, il y a tel texte qui m'intéresse, tel texte. Il m'a dit, oui, mais bah, vas-y, prends-les. Et je lui ai dit, Jean-Pierre, il y a des trucs là, ça m'ennuie parce que les parents vont râler. C'est moi qui me suis... J'ai été à la place du censeur. Parce que je savais que ça ne passerait pas. Parce que je savais que si on laissait passer ça, Jean-Pierre de temps en temps lui dit des choses qui ne sont pas vraiment pour les enfants, alors que le texte pourrait très bien passer pour un large public, et donc il fallait là qu'il enlève des choses. S'il ne les avait pas enlevées, j'aurais eu des ennuis. Ou bien les textes ne seraient pas passés dans les collèges. Et il fallait vendre les textes dans les collèges. Donc, parce que j'étais intéressé, j'avais un pourcentage, mais aussi parce que j'avais la responsabilité de la collection. Donc là, tout à coup, on est de l'autre côté de la barrière. Et on se sent responsable. Et Jean-Pierre, très gentiment, m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu demandais? On en parle. Et je lui ai dit comment on pouvait aménager le texte. Il a fait le travail, très gentiment. Michel Jury, par exemple, dont le rêve était et est toujours de publier pour la jeunesse, m'a dit, ah, c'est le moment ou jamais. Il m'a écrit des textes, qui d'ailleurs étaient des textes difficiles, ambitieux. Non, enfin, c'est quand on demande à l'auteur du temps incertain d'écrire un texte pour les 12 ans, on ne sait pas gagner. Hein, bon, mais il l'a fait.
Il a quand même le sablier vert.
Comment ? Alors avant, oui, le sablier vert a été republié par et le monde de Linus a été republié pour les adultes, hein, en pocket, hein, bien sûr.
Tu as pris des adultes pour la jeunesse, mieux.
Et ah oui, ben ça, j'allais y venir, évidemment, parce que j'ai retrouvé aussi des romans que je jugeais être des romans accessibles aux jeunes, comme les romans de Stanislas Lem, Le Bréviaire des robots à l'époque, Les Voyages du Jonchi, le titre a été modifié par la suite. Et puis, je suis tombé sur un texte qui m'a enchanté, évidemment, et qui m'avait déjà enchanté avant que je ne devienne directeur de collection, qui était Nurk de Stéphane Vuhl. C'est une anecdote, mais elle est peut-être un petit peu emblématique de la question l'écriture pour la jeunesse. Car quand Perrault, donc Stéphane Vuhl, avait écrit ce texte, c'était pour le Fleuve Noir, on était en 56, De Noël l'avait republié en présence du futur, et voilà, Elisabeth Gilles était celle qui vendait Nurk à l'époque, donc en 1980, 81 très exactement. Et quand j'ai dit ça à Pierre Marchand, Pierre m'a dit, bah vas-y, on republie, ça ne nous coûte rien. Alors ça ne coûte rien, pourquoi? Parce que présence du futur c'est De Noël, et De Noël c'est Gallimard. Et c'était déjà Gallimard il y a plus de 30 ans, donc c'était la même maison. Simplement par courtoisie, j'ai été voir Elisabeth Gilles, je lui ai dit voilà, je vais republier Nurk chez Gallimard en folio junior. Combien ça va coûter? 3 fois moins cher qu'un De Noël. Et elle, Elisabeth Gilles, n'était pas contente du tout. Elle a prévenu, bien sûr, Pierre Perrault, Stéphane Vuhl, en lui, qui m'a joint, qui m'a dit mais je ne suis pas content du tout, comment ça, je vais devenir un auteur jeunesse. Pour lui, c'était carrément baissé de niveau, quoi. Son texte était nettement voilà, un texte qui devenait accessible aux jeunes. Pour lui, ce n'était pas forcément quelque chose de très positif. Hein. De même qu'il y a des parents qui vont voir les instituts en leur disant « Ah, vous êtes monté en grade, hein, l'année dernière vous aviez des CP, maintenant vous avez des CM1. » Bon, c'est, ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc lui, il descendait tout d'un coup d'un cran, ça ne lui faisait pas plaisir. Et bien, je l'ai fait quand même, parce que Pierre Marchand m'a dit bah, « Si, allez, on publie. » Et j'ai donc pris Nurk, pourquoi? Parce que j'ai considéré que Stéphane Vuhl avait écrit un juvénile sans le savoir. Son héros était un enfant, et là, je retombe dans la problématique de l'enfant, mais il y avait un animal, je retombe dans la même problématique, mais je savais aussi que c'était très vendeur, mais par ailleurs, c'était de la SF, de la vraie SF, de la grande SF, avec un monde apocalyptique, avec des problèmes de mutation, et puis avec, c'est un récit initiatique, c'est un roman d'apprentissage, Nurk. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un roman jeunesse. Et l'enfant est noir en plus, qui était pour moi très intéressant parce qu'il est différent, et il avait été rejeté par sa tribu, enfin, il y avait tous les ingrédients. Bon, je n'ai pas d'ailleurs réussi à convaincre ni Elisabeth Gilles, encore moins Stéphane Vuhl, mais il n'empêche que le roman est sorti. Alors, 4 ans plus tard et 300 000 exemplaires plus loin, Stéphane Vuhl était très content d'être devenu un auteur jeunesse, mais ça c'est autre chose. Et Elisabeth Gilles d'ailleurs était très contente aussi parce que les ventes ont tout à coup triplé, en présence du futur, étant donné que, et ça c'était nouveau à l'époque, il y a 30 ans, on s'est aperçu que quand on avait un livre qui passait en poche et qui avait été oublié depuis pas mal d'années, eh bien l'édition grand format était dopée par les ventes en poche. Alors ça c'est des problèmes commerciaux, mais en même temps, voilà, quand on pose les problèmes et les questions au directeur de collection, tout à coup il dit bah, « je ne suis plus auteur, maintenant je suis dans le camp adverse, si j'ose dire », qui est en réalité le même camp, parce que voilà, l'objectif c'est de faire lire, c'est de convaincre, c'est de livrer le meilleur de la littérature au plus large public possible, évidemment.
L'intérêt d'écrire pour la jeunesse, c'est le retour. Lorsque vous écrivez pour les adultes, les gens tournent autour du stand, viennent vous voir dans des salons, votre roman là, je l'ai lu, il est bien, il y a peut-être un ou deux petits passages et tout. Lorsqu'on écrit pour la jeunesse, pendant la classe, le gamin vous regardera dans les yeux, j'ai pas aimé ton livre. Pas de, ou j'ai adoré, il n'y a pas de demi-mesure. Et ça, ce retour-là, il est très important moi, pour moi, je trouve, lorsqu'on écrit, d'avoir en direct, sans filtre, ce que pense l'enfant. Et de, là encore, donc, peut-être de corriger le tir en voyant ce qui passe pour eux, ce qui ne passe plus, ou qui passait. Bref, ça, moi, j'ai besoin de ce retour-là.
Je vais passer le micro à Jeanne.
Non, non,
pour
non,
le... j'avais appuyé ce que tu fais alors. Ouais. Donc, voilà, j'appuie ce que tu as.
Pas trop fort.
Donc, il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a dans le public des questions?
Des enfants.
Ou des enfants.
De grands enfants. Ah, un grand enfant.
Il y en a un là.
Il y a clairement une littérature déesse, une question élitiste. José Marc Lévy, il y a.
Non, il n'y a pas à se fâcher, elle existe commercialement. C'est-à-dire que la littérature que vous trouvez en grande surface, c'est pas la même, c'est en librairie.
Bonjour,
Et de, donc ceux qui ne fréquentent jamais les librairies achètent des livres pour leurs enfants dans les grandes surfaces. Ça peut être des séries, des ressuscés, enfin bon, c'est pas terrible.
Est-ce que c'est pas aussi une différence entre la littérature jeunesse prescrite par les profs et celle qui est directement achetée par les enfants? Je pense à Nour, par exemple, j'en ai fait vendre quand tout est considérable par les profs, mais je suis pas certain que c'est spontanément les profs.
Alors, j'aimerais moi ajouter, j'ai presque oublié la question qui a été posée, là, c'était sur.
Est-ce qu'il y a la première question
Oui, les éditions de minuit pour enfants. Ah oui, ça, j'ai un rêve, hein, effectivement. Mais il se trouve que, je réponds rapidement, parce qu'il y a une autre question qui m'intéresse. Quand un secteur de l'édition française aujourd'hui crée une section jeunesse, une collection jeunesse, c'est pour faire de l'argent. C'est pas pour faire, c'est pas pour faire de l'élitisme. Et je déplore énormément qu'il y ait peu d'éditeurs jeunesse qui cherchent à publier le meilleur au risque de voir le texte peu reconnu, peu vendu. Mais il y a des petits éditeurs. Je publie chez de petits éditeurs. Il y a, il y a Oscar, avec des textes qui sont très très forts, qui se vendent très très peu. Il y a dans le domaine des beaucoup plus jeunes, il y a l'atelier du poisson soluble, qui publient des choses magnifiques, et bon voilà, mais ce ne sont pas des commerciaux. Ce sont des gens qui ne sont même pas distribués en librairie, ils n'ont pas de diffuseur.
Tu as l'école des loisirs tout de même ?
Alors non, sûrement pas l'école des loisirs, je suis désolé, mais je pense que l'école des loisirs, là, on est dans... Alors il y a des textes qui sont magnifiques, mais ce n'est pas ceux qui se vendent le plus. Alors l'école des loisirs a aussi cette politique, c'est vrai, de publier des textes qui sont extrêmement populaires, et puis des textes beaucoup plus difficiles, des textes hard, bien sûr, je pense à Xavier Deutsch, ou à Chris Donner, non, ben, je connais bien l'école des loisirs, même si je n'ai pas publié à l'école des loisirs, mais dans le domaine commercial, c'est quand même un monopole, l'école des loisirs. C'est le seul éditeur français qui a la capacité de faire des abonnements au CDI. Hein. Donc, et les autres ont essayé, Milan, Gallimard, Rajo, Hachette, ils n'ont pas réussi. Alors, dans le domaine de la diffusion et de la force de vente, on ne peut pas comparer l'école des loisirs avec Jérôme Lindon. Hein, c'est pas vrai, il faut être honnête. Mais j'aimerais répondre aussi à votre question sur... Alors là, il y a deux types, en effet, de littérature jeunesse. Il y a la prescription, oui. Et la prescription est différente de la littérature jeunesse générale, même si beaucoup d'éditeurs aujourd'hui ont l'ambition que le texte, qu'il y ait un texte qui soit prescrit. Qu'est-ce que c'est la prescription? On va le dire tout de même. C'est quand l'éducation nationale décide de dire officiellement dans le bulletin OBO, hein, carrément, ce texte-là est un texte qui peut très bien entrer en classe de 6e parce qu'il est question des Romains, des Grecs, ou bien en 5e c'est très bien parce que c'est le Moyen-Âge. Et dans ce cas-là, c'est vrai que le texte, vous savez que je pourrais vous citer des chiffres. Par exemple, le Faucon déniché de Jean Comnoguès, vous seriez jaloux, hein. Savez-vous à combien d'exemplaires s'est vendu le Faucon déniché ? 2,5 millions. Alors là, on n'est pas aux éditions de minuit. Hein. Bon.
Ah non.
Non. Et mais ça, c'est la prescription. Mais il faut qu'on déniche, c'est le Moyen-Âge, c'est les classes de 5e. Et là, effectivement, alors, on pourrait citer d'autres textes. Par exemple, c'est des amis à nous, c'est des camarades, c'est très bien. L'œil de Russe d'Alain Surget, très bien aussi. Bon, les pierres de sarcophage d'Odile Velers, le messager d'Athènes d'Odile Velers. Enfin, il y a aussi Evelyne Brizou-Pellem. Il y a des gens qui travaillent dans la prescription, et c'est très bien, parce qu'ils vendent, ils vendent. Et puis quand ils font le meilleur d'eux-mêmes, c'est très bien. Mais en même temps, il y a aussi une littérature qui ne se préoccupe pas de la prescription. Et Newark, en 80, moi je ne me préoccupe pas, d'abord elle n'existait pas, la prescription. Et si vous voulez écrire pour la prescription, il y a un domaine à éviter absolument. C'est la science-fiction. Parce que ça, c'est pas prescrit. C'est pas prescrit. Et même si certains textes circulent aujourd'hui, dans le domaine de la science-fiction, c'est le bouche à oreille, mais c'est pas parce que le ministère a décidé qu'il fallait le faire étudier aux classes de 4e ou de...
Non. Alors, très récemment, tu vois, on m'a envoyé... Moi, je suis prof, une liste à faire de 40 romans de jeunesse, de science-fiction, à envoyer à l'académie. Simplement, j'avais une contrainte. Il ne fallait pas qu'il y ait de gros mots dedans. Voilà. Alors voilà, ça a été très dur de leur sortir 40.
Même des gros mots extraterrestres.
Moi,
j'ai pris.
Non, c'était pas possible.
Joël Vintrevert se sert d'un gros mot et. Je lui ai téléphoné pour lui reprendre au début de ma carrière. Elle m'a dit, je te prête, c'est Krone. Enfin, Krone, au lieu de dire merde, on dit Krone. Et bon, voilà, c'est
standard. Ah, Krone,
c'est
un autre.
Voilà.
Oui. Non, mais tout ça pour dire qu'en effet, il y a deux, vraiment une catégorie de textes qui relèvent de la prescription, qui doivent être en effet bien lisses, etc. Et que si aujourd'hui, dans notre belle économie de marché, les contrôleurs financiers, c'est un beau lapsus, les directeurs littéraires, qui dépendent tous des contrôleurs financiers, sont si exigeants et veulent raboter les textes, c'est pour qu'ils puissent entrer dans la prescription, parce qu'un livre prescrit, il se vend 10 fois plus qu'un livre qui n'est pas prescrit. C'est pour ça que le futur Jérôme Lindon des éditions de Minuit pour la jeunesse, il n'est pas encore né. Hein. Et ça va être très très dur.
Y a-t-il d'autres questions? Dans ce cas, nous allons en rester là. Et on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour une conférence qui sera consacrée au dragon dans la... Fantaisie, c'est ça. Je m'attends. Ah, voilà. Merci à vous.